Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
Il est 22h33, on est là jusqu'à minuit dans l'after avec Emmanuel Petit, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo également, et Jean-Louis Tour qui est toujours au stade à Budapest avec quelques anciens joueurs. Le PSG a gagné la Ligue des Champions et c'est la fête un peu partout dans Paris. Nous on est ici au Dopo, le restaurant de l'after, où une sorte de parade pyrotechnique s'est organisée sur le pont qui mène à la scène musicale. Daniel, tu es allé tu t'es transformé en reporter.
Incroyable.
Que s'est-il passé?
J'ai la vidéo, je sais pas. Sur le pont, le nombre de.
Sur une trentaine ?
Non, beaucoup plus. Plus. Le pont est complètement plein. Et ils ont allumé des fumigènes, une banderole. Certains étaient des gens. Alors, le truc, en revanche, que je trouve un petit peu con, c'est qu'il y en a trois qui ont plongé dans la Seine.
Ah.
Ça, c'est un peu con.
C'est un peu risqué.
Oui, c'est un peu risqué. Un peu, voilà, mais il y a toujours dans ces cas-là des débordements.
Je vais mettre la vidéo sur X.
Vas-y, j'allais le faire, donc vas-y, mets la vidéo. Ouais, exactement.
Bon, il faut évidemment que la fête. Reste positive et que tout se passe bien, c'est ce qu'on espère, qu'il n'y ait pas de débordement cette nuit dans Paris.
Chaque fois qu'il y a ce genre de choses, c'est ce qu'on espère. Ouais, oui.
Exactement. J'aimerais, et on va avoir aussi dans quelques minutes Thierry Barnera qui viendra avec nous décrypter la séance de tir au but, parce qu'elle est intéressante. Alors, c'est toujours intéressant.
À mon avis, il voudra parler du premier but encaissé par Safonov.
Il lève pas les bras, Safonov.
Non, c'est pas ça. Il va te dire que c'est pas juste, il lève pas les bras.
Ah bon ?
Il va te dire qu'il ne reste pas sur ses appuis.
Ne dis rien, on entendra, Flo, on entendra.
Mais il a fait. Je savais pas en fait s'il avait fait vraiment une erreur ou pas. Et il va vous expliquer ça. Et comparer justement avec quelque part une action un peu similaire que Raya a beaucoup mieux géré. Il va nous expliquer ça.
Raya, pour moi, il a fait un très gros match.
Il nous dira ça tout à l'heure. Pour l'instant, on est toujours sur le PSG et on continue là-bas. L'analyse du match. Il faut qu'on rentre un peu dans les détails, Manu, parce que vous avez tous dit que vous aviez été très déçu par la première mi-temps. Oui, non, tu l'as pas dit, toi. T'as été déçu.
Non, moi, c'est la deuxième. Surtout déçu du côté d'Arsenal.
Mais là, on parle du côté parisien.
Ah.
Comment expliquer ces deux mi-temps là, Paris entre la première descente et la deuxième?
Écoute, je l'ai dit, parce que tu mènes au score rapidement, donc ça confirme le plan justement d'Arsenal, où la qualité suprême c'est le bloc défensif.
Mais déçu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que le PSG, en prenant un but à la cinquième sur l'action, on voit, c'est un dégagement, une espèce de contre un petit peu curieux, le ballon sur Havertz qui va mettre un but assez stupéfiant dans un angle très fermé. Voilà, t'es à la cinquième à ce moment-là. Tu sais qu'Arsenal vient avec un plan de jeu qui est verrouillé, ne pas laisser d'espace au PSG, et que c'est comme ça que tu vas le plus les emmerder. Tout se goupille bien pour eux. Moi, j'ai beaucoup de mal, une fois que ça démarre de cette façon, à dire le PSG a raté sa première période. Parce que oui, avec Manu, on regardait, on dit évidemment, on sait que dans ces cas-là, ça va passer par les duels sur les côtés, la différence qui doit être faite pour faire le premier décalage. Mais c'est pas si facile que ça, au fond. Parce que t'as des bons défenseurs. C'est quasiment quatre défenseurs centraux qu'ils ont. T'as la meilleure défense. C'est verrouillé. C'est un bloc plat. C'était un jeu défensif qui est hyper bien huilé. Donc, moi, dire que le PSG rate sa première période, je suis pas vraiment d'accord.
C'est pas que c'est facile. Moi, ce qui m'a juste manqué, ce qui m'a étonné, même si effectivement derrière il y avait toujours un deuxième rideau et que la défense d'Arsenal, on le savait, était rodée, c'est qu'il n'y ait pas plus en un contre un de tentatives de dribble, y compris de Kvara ou de Doué. Ils ne sont même pas allés les tenter. Ou quand ils les ont tentés.
Mais parce que le ballon n'arrivait pas à eux, c'était compliqué.
Si, ils se sont retrouvés parfois. Ils ont réussi à se retrouver en un contre un face à un défenseur. Ils ont renoncé à ce duel-là. C'est tout.
Moi, à chaque fois, je voyais que c'était fermé. J'arrivais pas à voir comment ils pouvaient y aller.
Alors peut-être que derrière, c'était fermé. Mais regarde, je vais donner un exemple de ce que le PSG aurait pu faire. C'est Nuno Mendes, le seul, qui a passé l'épaule et qui passait sur le côté.
Mais n'oublie pas que tu as l'inquiétude aussi, surtout quand tu es mené. L'inquiétude aussi, c'est d'un peu trop te livrer, de prendre le contre. Et là, tu sais que ça va t'assassiner définitivement.
Manu n'est pas d'accord.
Ben non, je suis pas d'accord. Parce que quand tu défends dans ta surface de réparation, aux abords de la surface, il n'y a pas d'espace derrière toi. Donc tu fais comment pour les éliminer? On est contre un.
Ouais, mais Nuno Mendes, il est passé.
Avec Flo, pas avec moi.
Non, je suis pas d'accord avec Flo. Ouais, ouais. Ils ont tellement défendu
des
joueurs qui prennent justement l'initiative de faire du 1 contre 1 dans la zone, ils ont besoin d'avoir de l'espace derrière. Il se passe rien parce que les mecs ont défendu dans leur propre surface de réparation.
Moi, je parle par exemple d'une action typique de Kvara, qui est que lui il partait des deux côtés.
D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais regarde le penalty, ça vient de quoi?
Oui, d'un redoublement de passe et pas dans la contre.
Exactement.
D'un 1-2 presque.
Voilà. Ouais.
Non, mais ça, je suis d'accord. Alors, ces passes dans la surface et dans l'axe, elles ont été. Non, il y a eu du déchet technique. J'ai trouvé des trucs assez étonnants. Sur des remises Hakimi, Kvara, sur des toutes petites remises dans le jeu très court. Il y a eu. Non, je pense quand même qu'on peut légitimement.
Mais ils sont à chaque fois sous pression.
Sévère, mais je pense qu'avec cette équipe-là, avec ce niveau-là, tu peux être à ce niveau de sévérité.
Ouais, mais pas contre une équipe comme ça qui verrouille aussi bien.
Parce que, par exemple, ils ont fait, comme le dit Manu sur le but, ils n'ont pas tenté tant que ça la passe dans la surface pour aller chercher un 1-2. Et je le répète, Nuno Mendes, lui, il a réussi à faire ce passage, passer l'épaule et avoir la seule occasion avec un centre qui ressemblait un petit peu à ce que vous avez parlé.
C'est la seule fois où il est passé, c'est un latéral qui est venu, justement.
Ouais. Non, mais en tout cas, je suis assez d'accord sur le fait que cette première mi-temps, elle était quelque part injouable à partir du moment où à la cinquième Arsenal marque. Ça, c'est vrai, c'est très très dur.
Moi, si vous n'avez pas marqué, c'est obligé d'aller attaquer.
Ce qui est très très fort et ce qui est pour moi à la fois le regret d'Arsenal et la qualité, la grande qualité du PSG, c'est la façon quand même dont à la mi-temps ça a switché quand on les a vus revenir sur la pelouse et la façon dont le Paris Saint-Germain a repris la main quand même sur le match et aussi à la façon dont Arsenal, à part à la 60e, je les ai vus revenir un peu au pressing,
Je vais te dire mon point de vue. J'allais dire, je te dis la vérité, c'est peut-être pas la vérité, c'est mon point de vue. S'il n'y a pas ce péno, et ça fait partie du jeu d'aller le chercher, et en plus il y a 100% péno, il n'y a rien à dire, je ne sais pas si le PSG revient. Je pense que le plan d'Arsenal de verrouiller, de gagner 1-0, le pire des cauchemars qui était dessiné, c'était celui-là. C'était même tellement caricatural qu'on se disait, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais s'il n'y a pas cette. C'est pour ça que je dis que Kvara ce soir est une nouvelle fois extraordinaire. Parce qu'il est allé le chercher, il est allé trouver la petite ouverture. Parce que sinon, ben à côté de ça, moi j'ai pas vu Raya faire des exploits, il a fait des arrêts, ok.
Sur
quand Barcola est lancé, voilà.
Barcola, on va dire Barcola pousse trop loin son ballon, oui, moi je suis pas certain. La sortie, elle est très, très, très bonne.
Mais sans le péno. Okay. Le PSG, ils se font braquer ce match. Ils se le font braquer ce match.
Tiens, on va aller sur les Champs-Élysées où Kevin Morand est sur place en espérant que tout se passe bien pour l'instant, Kevin.
Alors Gilbert, il y avait environ 6000 personnes qui ont suivi le match ici en regardant sur le téléphone. Maintenant, ils sont environ 20 000. Alors je vais me reculer un petit peu parce qu'il y a des feux d'artifice qui sont en train d'être tirés dans ma direction. Mais voilà, donc ça se tend un petit peu parce que les CRS et les forces de l'ordre qui sont mobilisées en nombre ici, notamment pour protéger les façades de vitrines de commerce, interviennent de plus en plus pour procéder à des dispersions quand les groupes commencent à devenir trop gros. Mais voilà, il y a globalement une bonne ambiance, pas d'incident pour l'instant à signaler grave sur le haut des Champs-Élysées où je me trouve. De plus en plus de monde, environ 20 000 personnes, et donc des interventions des forces de l'ordre de plus en plus fréquentes.
Très bien, espérons que tout se passe bien. Évidemment, tu nous tiens au courant, Kevin. On a avec nous un nouvel auditeur de l'After ici au Dopo. Bonsoir. Ah, est-ce qu'il marche ton micro?
Ouais.
Parle
dehors. Bonsoir à tous.
Ah, voilà. Ton prénom?
Enzo.
Enzo. Bonsoir. Alors Enzo, tu viens de Belgique?
Exactement, c'est ça.
Est-ce que tu te bosses en Belgique?
Écoute, j'habite en Belgique depuis un peu plus de 4 ans, mais je suis quand même né à Paris. J'ai toute la famille ici à Créteil notamment, donc je reviens.
Tiens ton micro un petit peu plus haut. T'es pas. Voilà.
Je reviens dès qu'il y a un gros match, et notamment c'est la première fois ici au Dopo. Étant auditeur de l'After depuis quelques années, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire ce que vous avez fait ici. Ouais. Et de vivre cette finale et de cette deuxième étoile, ça a été quand même un. Assez mémorable.
T'entendais notre débat là sur les différentes phases du PSG, qu'est-ce que tu veux nous dire?
Honnêtement, je rejoins quand même assez l'avis de Flo par rapport à ça. Je pense que j'ai aussi été assez tronqué par rapport à la qualité offensive qu'on a au niveau du Paris Saint-Germain, notamment face au Bayern Munich au match aller. Je pensais honnêtement que même avec la qualité défensive d'Arsenal.
Tu veux dire, t'as certains cadres offensifs qui ont été moins bons ce soir?
Alors, moins bons,
je sais. On fera l'évaluation de tout à l'heure. Peut-être qu'on pourra dire que Dembélé, par exemple, a été moins flamboyant que ce qu'on pouvait
dire. Bien sûr. Je pense que ça a été moins bon, mais il faut aussi souligner que la qualité d'Arsenal, et c'est là où on se rend compte que cette équipe-là a été très très forte défensivement dans le bloc. C'était. Je pense que pour un attaquant, ça doit être un match assez horrible. Parce que même, on reprend l'exemple de Kvara, il aurait pu, je pense, aller provoquer un peu plus. Mais là où je rejoins Daniel, c'est que le seul petit espace qu'il a réussi à trouver, il provoque le pénalty.
Après, il y a un truc sur les attaquants qui est un tout petit peu dommage. Moi, c'est plutôt sur il y avait très peu d'espace.
C'est ça.
Non, mais très peu de moments où c'est quand ils n'ont pas donné là où il fallait donner. Je pense à Dembélé avec une frappe totalement ratée.
Il y a eu beaucoup de déchets techniques quand même, je trouve.
Il y avait Kvara qui pouvait aller trouver sur un petit centre. J'ai vu les frappes. Bah, Dembélé, une frappe très, très lointaine
dans les tribunes.
La frappe de Vitinha, certes, elle est belle, tu sais, à la fin, mais Vitinha, c'est rare qu'il ne cadre pas. J'ai trouvé qu'il y avait ça. Alors, sans doute que, comme dit Manu, c'est lié aussi à la qualité défensive d'Arsenal qui te laisse moins de temps pour aller frapper.
On a tous joué au football.
À peu près au même niveau. À peu près tous au même niveau.
On s'en fiche. Même si tu joues au niveau amateur au football, si tu rencontres en face de toi une défense extrêmement organisée, même si tu es talentueux dans le 1 contre 1, dans les zones à chaque fois pour essayer de défier ton adversaire, l'illustration, c'est quoi? C'est le nombre de frappes lointaines qui ont été vendangées par les Parisiens. C'était un aveu d'impuissance en sachant que c'est probablement la meilleure équipe sur le plan offensif dans l'animation offensive et qu'ils ont essayé, ils n'ont rien pu trouver. Donc, quelque part, quand tu fais des frappes lointaines, c'est que tu reconnais la supériorité de ton adversaire sur le plan défensif.
Mmh. Tiens, Arthur Perrault est avec nous, il est devant le vestiaire du PSG. Bonsoir.
Bonsoir Gilbert. Oui, en salle de conférence de presse où Luis Enrique va pas tarder à arriver. Et on entend en fait le vestiaire qui donne sur la salle de conférence de presse et les chants qui continuent de se succéder dans le vestiaire parisien. On est les champions, président. Voilà, la fête qui se poursuit.
Ils n'ont pas dit double prime. Non, ça, elle a été validée avant la prime, c'est bon.
Il y a une belle prime qui a été négociée avant, exactement. Mais voilà, la fête qui continue. Et Luis Enrique, à mon avis, n'est pas prêt d'arriver devant les journalistes qui sont déjà en train d'attendre.
Bon, on diffusera la conférence de presse en direct. Merci beaucoup.
La fameuse prime qui échoue à tout le monde, y compris ceux qui ont joué que quelques minutes, comme Njantou et compagnie. Ah bah, c'est le principe du collectif.
Non, mais, tout à l'heure, on parlait justement que Enrique était l'architecte de tout ça et que depuis 2 ans, le PSG et les supporters du Paris Saint-Germain vivent un conte de fées. Je crois qu'aussi, on a oublié de citer quelque chose qui pour moi était incontournable sur le succès que les Parisiens connaissent depuis plus d'un an et demi.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est que le foot est une expression collective qui sont sublimées par des individualités. Et là, on s'aperçoit que depuis qu'ils ont viré tous les égaux, cette équipe, elle est libérée. Donc, tout à l'heure, pour reprendre ce que tu disais, Daniel, que
donc, tu accrédites ceux qui disent
c'est
que c'est
incroyable de voir comment les joueurs performent depuis un an et demi. Ils sont devenus pour la plupart des joueurs de classe mondiale. Alors c'est vrai que l'expression dans laquelle ils évoluent grâce à Luis Enrique leur permet justement d'avoir cette confiance et cette honnêteté envers eux-mêmes. Et donc tu le vois et ça transpire dans le jeu. Mais ramène quelques égos mal placés et d'un seul coup la machine s'enraye. Pour moi, ça a été la première chose que Luis Enrique a faite en arrivant qui a été une délivrance pour pas mal de joueurs. Je m'en rappelle et je vais vous donner un exemple.
Non, ce qui est le recrutement et le fait de nettoyer le vestiaire, c'est aussi c'est Luis Campos l'idée.
Oui,
et de toute façon, ils étaient arrivés au bout d'un process où de toute façon les joueurs devaient partir.
Mon exemple.
Déjà, il y a eu de dire à Verratti terminé, de dire à Neymar terminé.
Oui.
Mais si ça se terminait tout seul.
D'accord.
C'est ça, en fait déjà.
Tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait continuer avec le Paris Saint-Germain.
Mais moi, je ne dirais jamais qu'avec Mbappé, tu gagnais pas la Ligue des Champions.
Non, mais pour que tu comprennes vraiment. J'étais au match l'année dernière à Monaco, Monaco-PSG, quand Monaco gagne contre le Paris Saint-Germain. J'ai vu à maintes reprises sur le terrain Vitinha être l'ombre de lui-même sur le terrain parce qu'il était, presque en soumission face à Neymar, face à Messi, face à c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus.
Il y a 2 ans.
Ouais, c'est ça, il y a 2 ans.
2-3 ans.
Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Vitinha, c'est un superbe joueur, on ne le laisse pas jouer. Donc quelque part, je me suis dit, ces joueurs-là ont une telle emprise sur le collectif et sur le coach en lui-même que Luis Enrique ne pourra pas mettre son truc en place. Donc moi, c'est mon avis. Ça a été la première pierre, justement, de ce qu'a construit Luis Enrique.
Oui, bien sûr. Si je peux me permettre.
Oui, bien sûr, Enzo, vas-y.
Bien sûr, je rejoins Manu par rapport à ça. Et c'est là où, moi, aujourd'hui, je voudrais souligner quand même, tu as dit un mot, la confiance. Même nous, en tant que supporters du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, même dans des matchs quand même très difficiles...
Vous ne tremblez pas.
Je tremble. Ça a été très long, très long, très stressant. Mais on a une certaine confiance, je pense, qui a été insufflée dans ce club extraordinaire.
Parce qu'ils gardent toujours leur valeur collective, même dans
ça.
La difficulté.
C'est exactement
on
ça.
On n'est plus dans l'individualité.
Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait que, il faut quand même le dire, Paris Saint-Germain, c'est le seul club français, 2 fois Ligue des Champions. Moi, j'ai souvenir.
Ça, c'est un petit coup pour les Marseillais, ça ?
Pas forcément, mais j'ai souvenir.
T'as jamais les premiers, quoi.
Trois Coupes d'Europe.
Il y a même plus la peine.
Voilà, je pense que le rival n'est plus là. Mais
le débat n'existe plus.
Bah Enzo, écoute, merci d'être venu de
Belgique. Merci à vous.
Et puis, c'est sympa de te voir avec un maillot de foot parce qu'on a l'impression de voir de retrouver Laurent Deutsch en 3-0.
Merci à vous, les gars. Je vous écoute tous les jours.
Zabarni miniature.
J'ai eu l'occasion de dire à Gilbert, je fais plus de 500 km et l'after m'accompagne tous les jours dans la voiture.
Ah bah merci à toi.
Franchement, génial. Une réussite. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci Enzo. À très bientôt.
Bonne soirée à tous.